Voilà, je vous invite à suivre l'émission en dialogue entre Congolais avec le Kiosque de la Présentation.
Bonsoir et ravi d'accepter de nous recevoir dans vos salons et partout où vous vous trouvez pour suivre votre magazine d'actualité politique, Dialogue entre Congolais sur Radio Capitale, son miracle de la technologie. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 avril 2009, près de 2 ans après l'installation des institutions provinciales au Nord Kivu. Quel est le bilan de la gestion de cette province sur le plan sécuritaire, social et économique? L'émission de ce soir se penche sur cette question dans la série d'émissions sous le bilan de la gestion des différentes provinces par les autorités élues. Nous en parlons ce soir avec le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Feller Mutaïkira, le député provincial Moïndo Nzangi, qui représente le parti politique MSR, Mouvement social pour le renouveau dans l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Nous aurons comme troisième invité dans cette émission Maître Soudi Alimati, expert au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Il est aussi chef de section chargé de la réforme institutionnelle et des questions juridiques à la cellule technique d'appui à la décentralisation du gouvernement. Bienvenue à tous.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Après 2 ans de gestion de la province du Nord Kivu par le gouvernement provincial, quel est le bilan? Tentative de réponse avec notre confrère Jungala Wamona.
Invité à se prononcer dernièrement à l'Assemblée provinciale du Nord Kivu sur le niveau d'exécution du budget 2008, le caisseur de l'organe délibérant, Kaisabé Rambake, a déclaré, je cite, 30% seulement, l'essentiel ayant été englouti dans le fonctionnement des bureaux et le paiement des salaires des agents. L'occasion pour un autre élu provincial d'ajouter, et je cite également, vous comprenez dès lors qu'avec un tel niveau d'exécution du budget, rien ne peut être fait dans le domaine des investissements ni des infrastructures. Les autorités provinciales du Nord Kivu évoquent souvent l'insécurité récurrente dans la région et la non-rétrocession des 40% de recettes par le gouvernement provincial pour expliquer le faible niveau d'exécution de leurs promesses faites depuis leur avènement le 28 avril 2007. Ils avaient alors promis d'éradiquer l'insécurité, de réhabiliter les infrastructures détruites par la guerre et de remettre les Nord-Kivuciens au travail. Aujourd'hui, soit 2 ans après, il y a encore au moins 800 000 déplacés à travers la province selon les humanitaires. Bien sûr, à la faveur de la cessation des hostilités, la sécurité revient progressivement sur certains axes routiers, Massissi et Rutshuru notamment. Mais, estiment les observateurs, le retour signalé d'FDLR à Massissi, à Walikale et au sud de Lubero risque de compromettre tous les efforts de l'exécutif provincial. Dans le domaine des infrastructures, les mêmes observateurs relèvent quelques réalisations maigres, disent-ils. 4 écoles construites ou réhabilitées à Kiwanja, à Kirumba, à Bumba et à Rumangabo, 1 centre de santé construit à Kasindi, Lubiria, et l'équipement de l'hôpital de référence de Lubero, mais aussi la voirie urbaine à Goma, 1 pont réhabilité à Kangote, près de Butembo, et 1 autre à la sortie de Maboya, près de Beni. Les mêmes observateurs notent aussi sur le plan social un véritable effort de cohabitation pacifique entre les différentes communautés ethniques du Nord Kivu, et cela malgré une importante circulation des armes dans la région, ainsi que de graves blessures de part et d'autre. Jules Ngala, Radio Kapi.
Merci beaucoup Jules Ngala. Bonsoir Monsieur Feller Mutaïkira.
Oui, bonsoir.
Vous êtes le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. D'abord, votre réaction par rapport à ce tableau que vient de nous peindre notre confrère Jules Ngala.
En fait, nous pensons que, comme un œil externe, il a commencé par énumérer les défis auxquels nous sommes confrontés. Et il se fait que quand le gouvernement provincial du Nord Kivu a été investi le 28 avril 2007 par l'Assemblée provinciale, cela s'était fait sur base d'un programme du gouvernement. Et ce programme avait comme une vision axée sur 3 points essentiels, la sécurité, la cohabitation pacifique et le développement. Et il se fait que malgré ces défis, le gouvernement provincial n'a pas croisé les bras et a essayé avec les maigres moyens et avec les défis sécuritaires, les défis de la cohabitation, mais aussi les défis de la reconstruction. Et le gouvernement provincial a pu effectuer quelques réalisations, et cela dans tous les secteurs. Et nous sommes heureux que Jules Ngala ait cité quand même quelques réalisations.
Malgré qu'il y a aussi des points négatifs, notamment le manque de réhabilitation des infrastructures, notamment.
Nous disons que nous sommes pratiquement confrontés à des défis majeurs. Le premier défi, c'est le défi de la sécurité. Et le deuxième défi, c'est un défi lié au fait que les ressources ne pouvaient pas être mobilisées. D'autant plus que la province est une province à vocation agro-pastorale, ayant 2 millions de ses habitants, pratiquement les 30%, se trouvant cantonnés dans des camps, de déplacer au lieu que ce soit des ressources productives, ce sont des ressources humaines préoccupantes et qui sont exposées pratiquement à un péril réel. Et cela est un grand défi. Et donc, malgré ce défi-là, quelques réalisations ont été effectuées, et que ce soit dans le cadre, dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la réhabilitation des infrastructures.
Merci.
Il y a eu là où les contrées étaient accessibles et contrôlables des actions qui ont été menées.
Merci beaucoup, monsieur le vice-gouverneur. On vous garde encore dans cette émission. Nous avons également dans cette émission Dialogue entre Congolais le député provincial Moïndo Nzangi. Nzangi, bonsoir, monsieur le député provincial. Bonsoir, monsieur le député provincial.
Oui, bonsoir, monsieur Nzangi.
Monsieur Moïndo Nzangi, vous représentez le parti politique MSR, Mouvement Social pour le Renouveau, dans l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Quelle est votre réaction après ce papier d'analyse et de bilan de notre confrère Jules Ngala?
Oui, je crois que nous avons tous suivi dans l'analyse que ce qu'on attendait du gouvernement provincial, effectivement, il n'y a absolument rien qui est en train d'être réalisé sur le terrain. Puisque si vous trouvez le tableau qui a été fait par Jules Ngala, il vous dit que de toutes les attentes, de toutes les promesses faites par le gouvernement provincial dans le programme qui a été adopté à l'Assemblée provinciale, il y a des petites choses qui sont en train d'être faites de manière très ponctuelle. Je vous dis par exemple qu'il y a une école, président de Lubero, et un descendant à l'histoire de Béni, et c'est ça qu'on veut présenter comme des réalisations qui, à l'attente de la population. C'est-à-dire, tout ce qui avait été prévu, il n'y a absolument, je peux dire absolument rien, puisque une école sur 18 qu'on a prévu, ou sur 20 qu'on a prévu, sur 20 qu'on s'est engagé à faire, je crois que ce n'est que moins de 7% de réalisation. C'est-à-dire, à ce niveau, nous nous estimons qu'il n'y a presque rien qui a été fait. C'est tellement que le vice-gouverneur nous parle de défis de sécurité, et à ce niveau, nous allons lui dire que bon, la sécurité, c'est normal, ça a été un grand problème, pour un grand blocage pour les actions, mais il y a eu des endroits où il n'y avait pas de sécurité. Et c'est à ce niveau que
Monsieur Moïndo, où sont ces endroits où il n'y a pas eu d'insécurité au Nord Kivu?
Après Nord Kivu, pendant que la guerre se met par exemple à Bassissi ou à Rutshuru, la partie nord de la province n'avait pas de sécurité. Le territoire de Rascal, il n'y avait pas de sécurité. Pendant tout ce temps-là, et même dans ce territoire-là, il n'y a rien qui a été fait. Et le vice-gouverneur parle du problème de mobilisation des recettes. Je crois que c'est à ce niveau où se situe la grande faiblesse du gouvernement provincial Nord Kivu. Nous avons beaucoup de possibilités d'avoir des recettes. Et de toutes ces recettes prévues, il n'y a qu'un taux de réalisation de moins de 20%. Même pour les recettes exclusives à la province, les recettes de la province, il y a moins de 20% qui se découvrent.
Merci beaucoup.
La province et tous les autres mots qui tirent des services de mobilisation et le clientélisme qui a eu domicile dans la province, il faut que la province ne soit pas capable de pouvoir mobiliser les recettes. Et c'est là où se situent vraiment les grands problèmes.
Merci beaucoup, monsieur le député provincial Muhindo Nzangi. On vous garde encore dans cette émission puisqu'on va s'étendre sur la partie on va évoquer tous ces problèmes économiques dans la partie du bilan socio-économique de la gestion du gouvernement provincial du Nord Kivu. Monsieur Soudi Alimassi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Vous êtes aussi chef de section chargé de la réforme institutionnelle et des questions juridiques à la cellule technique d'appui à la décentralisation du gouvernement. Donc, comme nous parlons des provinces, la décentralisation. Vous êtes expert du gouvernement. En écoutant ou en suivant ce bilan, c'est un autre confrère, Jules Longala, quelle est votre réaction?
Ma première réaction est de réajuster tout d'abord les propos qui ont été affirmés par votre confrère. Le développement va de pair avec la question de la paix. La province du Nord Kivu est l'une des provinces qui ont préoccupé toute la République et le gouvernement central et le gouvernement provincial à travers tous les événements qui sont passés depuis l'investiture des gouvernements provinciaux. Je ne suis pas leur avocat, mais je dois rappeler ici que la partie qui a occasionné l'insécurité au sein de cette province a absorbé l'essentiel de tout ce que cette province devait bénéficier dans les cas d'investissement ou de la mise en œuvre des infrastructures de base et de tous les projets de développement qui étaient prévus initialement. Et je dis cela parce que j'ai été témoin direct lorsque cette question a aussi absorbé essentiellement des ressources du pouvoir central pour résoudre certaines questions. Moi, je pense, malgré ces différentes difficultés-là, lorsque même le député provincial que j'ai entendu dit qu'il y a eu certaines constructions, certaines réalisations qui se sont faites de façon timide, je crois qu'il faudrait d'abord commencer par féliciter ce gouvernement provincial. Nous sommes tous témoins et nous suivons pas à pas comment les choses se passent. Ce n'est pas parce que j'étais au nord qu'il y avait des problèmes, alors que les déplacés ont quitté le nord pour venir au centre et aussi de les déplacer de guerre. Ces déplacés devaient être gérés. Cette insécurité qui s'est étendue à travers la province, je ne sais pas si là, en présence, comment les questions de sécurité sont résolues avec les mêmes moyens qu'il y a au niveau de cette province-là. Je crois que même pour la mobilisation des recettes, il faut avoir un espace pacifié pour que ces recettes soient mobilisées. Nous savons que la province du Nord Kivu était l'île du G3 ou G4 qu'on appelait à l'époque, des provinces qui pouvaient se suffire lorsqu'il y avait le grand débat des 40% avec les recettes et la retenue de la recette des 40%. Mais pas dans l'état d'insécurité que le Nord Kivu a connu, je ne pense pas que la province pouvait faire de grandes réalisations.
Merci.
Dans cet état des choses. Voilà ma réaction un peu de façon ramassée de toutes ces interventions.
Puisque vous parlez insécurité, nous allons suivre comment la population du Nord Kivu perçoit justement ce problème d'insécurité. Ses habitants souhaitent que le gouvernement provincial du Nord Kivu renforce la lutte contre l'insécurité dans la ville de Goma et différents territoires. On écoute leurs avis recueillis par nos confrères de Radio Kapi Goma et Kinshasa.
Moi, je réponds de Gakuru Seranga Patient. Je pouvais demander au gouvernement provincial de voir comment était sécurisée surtout la ville de Goma, parce que c'est ça, pour toute la province, je pense que c'est la ville qui nous représente. Si la paix manque dans la ville, est-ce qu'elle pourra se trouver dans les campagnes?
Je m'appelle Paulo Kisera Josué, je suis président de l'OCSF en train de Bénin. Sur le plan sécuritaire, nous voudrions que le gouvernement provincial puisse terminer avec les cas isolés de groupes armés dans notre milieu, notamment dans la vallée de Saint-Maurice.
Au niveau de la sécurité, jusqu'à nos jours, il faudrait reconnaître qu'il y a certains foyers où la sécurité continue à battre son plein, notamment dans le territoire de Lubero, où on signale jusqu'à aujourd'hui la présence des FDLR et qui continue à piller, à massacrer et à tuer les populations. Donc, sous ce plan également, le gouvernement provincial a encore un défi à relever.
Voilà, merci beaucoup à nos confrères de Radio Okapi Goma et Kinshasa qui nous ont réalisé ce Vox Pop, comme on l'appelle, ce micro-trottoir. Monsieur le vice-gouverneur, justement, c'est vous qui dirigez l'exécutif, hein, en compagnie du gouverneur. Comment réagissez-vous face à cette insécurité qui persiste au Nord Kivu? Je peux dire également que comment se fait-il qu'après les opérations conjointes au Rwanda, RDC, que l'insécurité continue avec la présence des FDLR, notamment dans les territoires de Lubero, comme l'a évoqué l'un de ceux que nous venons d'entendre.
Oui, merci, monsieur le journaliste. Il se fait que le gouvernement provincial du Nord Kivu, dirigé par l'honorable Julien Paluka-Onga, dont je suis colistier, est conscient du défi qui est le sien, le défi sécuritaire. Et c'est pour ça qu'il ne manage aucun effort pour essayer de tout faire pour faire rétablir la paix.
Et quels sont ses efforts?
Action de déployer.
Monsieur le vice-gouverneur.
Pour ses instances supérieures.
Monsieur le vice-gouverneur, oui. Quels sont ses efforts?
Oui, j'ai commencé à les énumérer et je dis que le gouvernement provincial fait un plaidoyer au niveau de la hiérarchie, mais aussi des appels de conscientisation au niveau de d'autres partenaires qui se trouvent dans la province, de partenaires internationaux comme la MONUC et autres. Et aussi, nous travaillons étroitement sur les questions sécuritaires à travers la cellule provinciale d'appui à la pacification, parce que pour tous les groupes armés nationaux, ce sont des groupes armés qui sont constitués essentiellement par des fils de cette province, et sur ce plan-là, un travail se fait avec des descentes sur terrain, mais aussi avec des séminaires, et c'est pour ça que nous avons beaucoup de partenaires identifiés qui nous aident, comme le PNUD, comme la MONUC et comme beaucoup d'autres partenaires avec lesquels nous cheminons pour essayer un peu de voir comment faire rétablir la paix et l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la province. Il faut savoir que à travers la conférence de Goma, mais aussi nous saluons les efforts qui sont fournis par le gouvernement central, les efforts diplomatiques à travers le communiqué de Nairobi. Dernièrement, vous avez suivi, il y a eu les accords de Goma avec le CNDP, mais aussi avec tous les autres groupes armés. Il se fait que de par ces accords-là, le gouvernement provincial se charge de la vulgarisation auprès de toutes les populations, mais aussi s'implique dans le plan de stabilisation et dans le programme Amani, dans le suivi de l'intégration accélérée des groupes armés qui touchent pratiquement s'inscrivent dans l'intégration au sein des FARDC, au niveau de l'intégration accélérée qu'au niveau de l'intégration classique.
Merci, monsieur le vice-gouverneur. Je vous demanderai d'être assez concis, hein, parce que on n'a plus beaucoup de temps. On doit aussi parler de la partie socio-économique. Mais finalement, monsieur le gouverneur, on assiste aujourd'hui à un retour des miliciens hutu-rwandais, des FDLR, notamment dans les territoires de Masisi, Walikale, au sud de Lubero. Mais qu'est-ce que vous prévoyez, vous, en tant que gouvernement provincial, pour mettre fin à cette situation et que les populations rentrent dans leur champ ou dans leurs activités, concrètement?
Oui, concrètement, nous faisons le monitoring et nous informons la hiérarchie à ça au portant, parce que nous suivons pas à pas, et aussi nous sensibilisons les populations pour que les populations puissent se démarquer de ces FDLR, Mais il faut savoir aussi que le gouverneur de province, que ce soit dans le cadre du programme Amani, que dans le cadre du communiqué de Nairobi, ensemble avec le président de l'Assemblée provinciale, des descentes ont été effectuées pour sensibiliser et ce sont des activités qui se poursuivent parce que nous pensons que d'ici là, et même aujourd'hui nous avons été dans une réunion du comité de sécurité par lequel nous sommes en train de voir comment pratiquement couper toutes les voies d'approvisionnement logistique de ces êtres de l'air pour que finalement ils désarment et qu'ils soient rapatriés chez eux.
Merci, merci beaucoup M. le vice-gouverneur. Votre réaction, Mohindo Nzangi, vous êtes député provincial du mouvement social pour le renouveau dans l'Assemblée provinciale du Nord Kivu.
Oui, je sais que vous comprenez bien qu'effectivement le gouverneur dans les actions qui mène pour la pacification ou pour le retour de la sécurité, il ne reste que chez de précis et de plaidoyer, et rien de concret, mais nous venons de ce que effectivement le vice-gouverneur a dit là. Nous avons ici affaire à deux problèmes au niveau de la sécurité. Il y a le problème lié à la place du groupe armée, et cela c'est notamment aujourd'hui, après les opérations conjointes que nous avons tous mis à lire, nous constatons malheureusement que les SLR sont en train de se réorganiser, ils font des attaques et ils pillent la population. Donc, si, conjointement à cette opération-là, il y a aussi un état de fait qui sème une sécurité. Je sais bien que vous avez été informé que le chiffre de poste de l'Ubero, l'FRTC, réclamant leur salaire, ils disent que 3 mois, ils n'ont pas été. Ils sont en train de faire abattre la population, ils sont en train de piller, ils sont en train de, aujourd'hui, il y a des phénomènes à débattre, c'est-à-dire une population qui compte pour la population, pour les militaires, tous les chiens sont aujourd'hui en train de mettre des militaires. Ça, c'est un problème de notre armée, c'est un problème qui travaille une solution à partir de Kinshasa. Mais aussi, à part cela, il y a comme tout de sécurité urbaine, notamment les assassinats dans les villes et notre milieu qui sont sous contrôle de l'armée. Et par exemple, pour la ville de Goma, le gouvernement provincial peut faire quelque chose de concret. Et par exemple, en faisant des bouclages, il est en train d'initier la ville de Goma et on avait ramassé plus de 600 armes. Mais aujourd'hui, pourquoi ils ne font pas ça? Il y a par exemple des actions qui peuvent entreprendre concrètement pour finir la sécurité dans les villes, finir la sécurité dans les milices qui sont sous le contrôle de notre armée. Et tout ça, en tout cas, nous ne voyons pas quelque chose au Congrès. Le gouvernement, un gouvernement ne peut pas s'arrêter à des plaidoyers à la Munich, plaidoyer au gouvernement central, alors qu'on a les possibilités aussi, le Parlement, de faire quelque chose. Et c'est quelque chose que l'État a dit. Il y a toutes les questions qui se posent, par exemple des questions de tracasserie, nous le vivons dans la province, on ne peut pas continuellement faire affaire au pouvoir central, alors qu'il y a un pouvoir au niveau de la province qui puisse aussi essayer de résoudre quelque chose.
Mais
à ce niveau que nous disons qu'il n'y a pas beaucoup de congrès.
Monsieur le député provincial.
On arrête en plus et les congrès, on ne le fait pas.
Monsieur le député provincial, je vais vous lire la réaction d'un auditeur anonyme, qui n'a pas donné son nom, qui dit que pour en ce qui concerne la solution aux problèmes sécuritaires, cela dépasse le seul cadre provincial. Il faut, d'après cet auditeur anonyme, des mécanismes nationaux et internationaux pour régler cette question. Est-ce que ça ne dépasse pas le gouvernement provincial? Et vous, au niveau de l'Assemblée provinciale, qu'est-ce que vous faites pour aider le gouvernement provincial à trouver une solution à ce problème, à ces problèmes sécuritaires?
Bon, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur qui a dit, et je dois lui dire qu'il y a des choses qui ne passent effectivement la province, mais il y a des choses qui peuvent être résolues par le pouvoir provincial. Et c'est à ce niveau que je me dis qu'il n'y a pas beaucoup d'initiatives. C'est ça qui tire les choses. Et au niveau de l'Assemblée provinciale, quand vous avez posé la question, nous avons pris déjà une série de recommandations que nous avons adressées au gouvernement provincial pour lui demander d'agir dans le sens de pouvoir promouvoir la sécurité. Et par exemple, nous trouvons dans la ville de Goma. Toute la ville est pleine d'officiers, il y a des militaires qui ne sont pas contrôlés. Il y a beaucoup d'armes en circulation. Est-ce que pour ça, il faut attendre que le gouvernement central dise au gouverneur des provinces de pouvoir demander au commandant de faire des bouclages?
Merci beaucoup.
On n'a pas besoin de la décision des élus. Ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'il faut pour demander à l'armée qui est supérieure de ne pas payer le téléphone, de ne pas payer l'intégration des chefs paysans.
Est-ce que vous avez au niveau de la... Monsieur le député, pour
vous... Nous, la Sartérie, par exemple, nous avons demandé au gouvernement provincial de supprimer les barrières. Mais jusqu'à présent, les barrières existent. Et sur les services provinciaux qui viennent du gouvernement et d'autres parts qui sont au point, qui sont en train de faire des tracasseries. Et il y a des services, par exemple, qui étaient dans le public, dans des clients comme des miables qui existent dans notre province, où le président a demandé au gouvernement de pouvoir demander à ces gens de ne plus tracasser la population, que ces services qui n'existent plus et qui ne peuvent pas considérer que ça risque de continuer à faire beaucoup de douleurs. Nous, nous estimons vraiment qu'il n'y a pas beaucoup d'actions.
Merci beaucoup.
C'est beaucoup en fait de préparer, mais les actions concrètes ne sont pas là pour sécuriser la population. Et ce qui fait qu'effectivement on arrive à une situation de tuerie et inimaginable pour la ville de Goma.
Monsieur le député provincial, Monsieur le député provincial, Mojindo, nous indiquez que vous, au niveau de l'Assemblée provinciale, vous faites lorsque vous constatez que vous avez adressé des recommandations au gouvernement provincial, mais ces recommandations pour améliorer la sécurité n'ont pas été respectées. On 30 secondes, s'il vous plaît.
Je crois que très rapidement, nous sommes en train de nous saisir, puisque nous étions en train de voter des recommandations, nous trouvons que les recommandations ne sont pas respectées par les pouvoirs provinciaux, et nous sommes en train maintenant de voir quel mécanisme nous pouvons utiliser, effectivement, pour faire beaucoup de pression au gouvernement par des interpellations, des questions orales. Et aujourd'hui, si vous avez le rapport de ce que nous faisons, nous avons commencé, je crois, et si ça persiste,
merci beaucoup.
On va passer à la vitesse supérieure.
Merci beaucoup. Monsieur le conseiller Sudi Alima, si vous êtes expert, vous êtes un expert du ministère de l'Intérieur et Sécurité, votre réaction par rapport à tout ce que vous venez d'entendre. Il y a notamment le député provincial qui estime que le gouvernement ne fait pas grand-chose sur le plan sécuritaire. Il y a des initiatives que ce gouvernement peut prendre, notamment le bouclage qui se faisait dans le temps, mais cela ne se fait plus. Il a même dit qu'on avait récupéré, si je ne me trompe pas, dans le temps, 600 armes.
Je suis tout à fait d'accord avec le député en ce qui concerne la lutte contre la criminalité urbaine. Le gouvernement provincial, avec tout ce qu'il a connu, peut multiplier beaucoup d'initiatives pour faire face à cette situation. Mais j'en profite pour lui rappeler que c'est un phénomène universel. Cette histoire existe même aux États-Unis et en Afrique du Sud. Ceux qui y vont, ils savent ce qui se passe sur place. Mais il faut fournir beaucoup d'efforts au niveau local pour arriver à une solution et réduire sensiblement cette criminalité urbaine. Mais quant aux deux autres aspects, la présence des groupes armés, l'intégration, c'est tout un programme. C'est là que j'ai rejoint l'auditeur qui a parlé récemment, que ça dépasse le niveau provincial. Et le gouvernement central est en train, a déjà fourni beaucoup d'efforts pour amener à la solution à laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui avec le tenus du chef de l'État lui-même. En ce qui concerne les groupes armés internes qui sont en train d'être intégrés, mais il y a l'autre volet en ce qui concerne les communiqués conjoints de Nairobi sur les rapatriements forcés des groupes armés étrangers, notamment les FDLR. L'insécurité aujourd'hui, ce sont des poches de résistance. Ces FDLR-là qui se sont répliés en forêt et qui commencent à rentrer dans les villages et ils ont commencé à commettre des exactions. Et c'est qu'il y a un programme au niveau du gouvernement central et enfin de monter une stratégie, notamment en collaboration avec les autorités provinciales, pour mettre fin à ce phénomène-là qui est en train de se passer à partir des forces armées congolaises qui sont en train de se déployer pour
les Monsieur le conseiller, s'il vous plaît.
Oui.
Monsieur le conseiller, vous dites que les FDLR qui sévissent contre la population, ce sont des poches de résistance, donc en quelque sorte de moindre importance, si je vous ai bien compris. Mais comment se fait-il qu'après cette opération Rwanda-RDC contre les FDLR, le gouvernement congolais avait parlé de succès, mais on se rend compte que sur les terrains, les FDLR continuent à commettre des exactions.
Mais c'est un succès. Je peux vous affirmer que les FDLR, ils n'ont plus la possibilité de nuire comme cela a été avant.
Mais ils continuent quand même à tuer, hein, à violer, à enlever les populations, à s'attaquer aux véhicules, hein, à empêcher les activités commerciales.
J'en arrive. Vous voyez le criminel quand il agit. les criminels ou les voleurs. Il intervient dans ce que les juristes appellent les chiffres noirs. Il fait un effort pour intervenir dans cet espace non contrôlé par la loi ou les forces de l'ordre. C'est comme ça qu'ils surgissent des fois dans des routes, ils bloquent et ils peuvent commettre des dégâts. Et ça, on ne peut pas dire que c'est une menace permanente comme il y en avait le cas l'autre fois. Parce que là, ils vivaient dans le village, ils pouvaient tuer au vu et de tout le monde, tout ça. Mais maintenant, ils le font de façon ponctuelle et des fois spontanée, ils agissent et puis.
Monsieur le conseiller.
En train d'être combattu.
Monsieur le conseiller, est-ce que vous voulez dire que c'est un phénomène qui va rester éternellement dans ce pays ou ce phénomène prendra fin un de ces jours?
J'allais vous répondre à une question, monsieur le journaliste. Personne ne croyait que 14 ans après, ces gens pouvaient être mis en déroute. Mais aujourd'hui, ce qui se passe maintenant, ce sont les très petites conséquences du premier résultat qui est positif. Ce qui veut dire que il y a d'autres mécanismes qui sont mis sur les pieds pour éradiquer ces phénomènes.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le conseiller Sidi Halima. Si je reviens à vous, monsieur le gouverneur, donc vous allez répondre brièvement parce qu'on doit passer à la partie du bilan socio-économique de votre gestion du gouvernement provincial du Nord Kivu. Il y a par exemple le député Mouhindo Nzangi, le député provincial, qui a dit qu'il y avait des bouclages que vous organisiez, mais pourquoi ne les faites-vous plus ce bouclage? Donc il y a des vous pouviez prendre des initiatives, outre celles qui sont prises par le gouvernement central. Qu'en est-il de bouclage, des assassinats à Goma? J'ai par exemple la réaction de Farouk Matoufali de Goma au Nord Kivu, qui dit que sous le plan sécuritaire, malgré la fin de la guerre entre les groupes armés et le gouvernement, l'insécurité sévit toujours. Car chaque semaine à Goma, d'après lui, il y a au moins un cas d'assassinat. Et je vais vous dire également, vous ne l'ignorez pas, depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril, je crois si mes chiffres sont exacts, il y a eu déjà 10 cas d'assassinat dans la ville de Goma. Solution.
En fait, il se fait que les bouclages sont cités parmi les stratégies et nous sommes heureux que l'honorable député ait quand même reconnu que le gouvernement provincial avait initié ces bouclages qui avaient donné des résultats. Mais aussi, cette stratégie est une stratégie qui est couplée avec d'autres stratégies. Et actuellement, nous sommes dans une phase de plans beaucoup plus durables, comme pratiquement l'intégration accélérée des groupes armés. Et pour nous, nous pensons qu'il est important que nous puissions d'abord savoir où est-ce que ce plan nous amène, parce que déjà d'ici le 15, on va proclamer la fin de l'intégration accélérée au Nord Kivu, et à partir de là, les FARDC vont prendre le devant parce que tout porteur d'armes sera considéré purement et simplement comme bandit et sera traité comme tel.
Mais les mêmes FARDC, monsieur le vice-gouverneur, commettent des exactions contre les populations de Lubero. Quelle solution entrevoyez-vous pour cela, pour mettre fin à cela?
Non, il faut savoir aussi que pour construire une armée, cela prend du temps et ça fait un processus. Parce que nous sommes actuellement dans une étape où on est en train d'identifier des gens venant des groupes armés et qui constituent des brigades. Et cela n'a même pas encore 3 mois. Et donc, il y a des réactions réfractaires ou des réactions importées. Et des groupes armés et nous pensons que la capacitation c'est aussi un processus et donc nous pensons que la situation va évoluer au mieux.
Monsieur le vice-gouverneur, en une minute s'il vous plaît, il y a aussi aujourd'hui, d'après les humanitaires, il y a près de 800 000 déplacés dans toute la province du Nord Kivu. Est-ce que ces déplacés vont rester éternellement dans les camps ou bien déplacés de leur village ou comme il y a eu cessation de la guerre, des hostilités entre l'armée nationale et le CNDP, ils vont pouvoir trouver une solution? Est-ce qu'il y en a déjà qui rentrent chez eux? Quel est leur sort? encore, qu'est-ce que vous prévoyez pour eux?
Nous pensons que naturellement, au fur et à mesure que la paix et la sécurité vont se rétablir, les déplacés rentrent et ils ont commencé à regagner leur localité pour les localités qui sont stabilisées et qui sont sécurisées. Et
il y en a combien qui sont déjà rentrés? Il y en a combien qui sont déjà rentrés sur les 800 000?
Vous savez que au mois de novembre, nous comptions déjà plus de 1 600 000 déplacés. Et actuellement, il se fait que les déplacements des populations sont aussi dynamiques, liés au fait que pour certaines localités dans Massissi et dans le Sud-Lubero et dans Walikale, nous enregistrons encore des mouvements internes des populations. Donc, il serait tendancieux d'avancer des statistiques précises.
Merci beaucoup, Monsieur le vice-gouverneur. Pour ceux qui ne nous ont pas suivis depuis le début de cette émission, je vous en rappelle le contenu et les invités. Près de 2 ans après l'installation des institutions provinciales au Nord Kivu, quel est le bilan de la gestion de cette province sur le plan sécuritaire, social et économique? Dialogue entre Congolais de ce soir s'y penche dans la série d'émissions sur le bilan de la gestion des différentes provinces par les autorités élues. Nous en parlons avec le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu, Feller Lutaichira. Le député provincial Mourindo Nzangi représente le parti politique Mouvement Social pour le Renouveau, MSA, dans l'Assemblée provinciale du Nord Kivu. Nous en parlons aussi avec Maître Soudia Limassi, qui est expert au ministère de l'Intérieur et Sécurité. Donc, dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons du bilan socio-économique du gouvernement provincial depuis qu'il est en place depuis près de 2 ans. Mais avant cela, le rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Sur le plan socio-économique, la population du Nord Kivu plaide pour la présence du gouvernement provincial sur toute l'étendue de la province, ainsi que la réalisation des infrastructures de base. Leurs propos ont été recueillis une fois de plus par les rédactions de Radio Kapi, Goma et Kinshasa.
Je réponds au nom de Kwanza Germain, je suis syndicaliste à l'UNTC. Il n'y a qu'à Goma, le chef lieu de Goma constate qu'on a un gouvernement provincial. Après Goma, c'est à Beni Butembo, là où on connaît aussi les gouverneurs. Mais Masisi, Walikale, Rutshuru, Nyiragongo ne connaît pas encore le gouvernement provincial.
Il faudrait que la rétrocession reconnue au gouvernement provincial par le gouvernement central arrive d'abord et que les citoyens qui vivent dans les entités territoriales décentralisées puissent bénéficier de cette rétrocession.
Dans la province du Nord Kivu, c'est toujours les grands noms. Ils ont pu construire un hôpital à Kassi, une école à Rutshuru et une autre école à Kanyabayonga qui sont encore à chantier. Des écoles qui ne sont pas encore vraiment à finissage. Dans les cadres de reconstruction des routes, rien n'a été fait.
Au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a deux défis majeurs à relever, c'est que dans les 3 ans suivants, il faudrait quand même que les députés provinciaux du Nord Kivu soient en mesure de produire un certain nombre de dits qui réglementent différents secteurs de la vie au niveau de la province.
Merci beaucoup à nos confrères de la rédaction de Goma et de Kinshasa. Monsieur le vice-gouverneur Feller Lutaichira, vous êtes vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Vous venez de suivre vos administrés. Ils ont dit notamment que il n'y a que Goma qui connaît l'action ou la présence du gouvernement provincial. Dans les autres contrées éloignées, on ne sent vraiment pas votre action. Il y a aussi le problème de rétrocession qui a été évoqué. Et puis, il y en a aussi qui ont dit que rien n'est fait sur le plan de la réhabilitation des infrastructures, de la construction des routes. Et qu'est-ce que vous en pensez?
En fait, pour le premier intervenant, quand il dit que le gouvernement ne se fait pas ressentir dans les territoires des Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, mais cela se
vous n'êtes pas Goma,
tous les territoires qui ont été cités, essentiellement, ce sont des territoires qui, il y a juste 2-3 mois, étaient sous les joues des groupes armés. Et il en est de même pour Walikale et pour l'ouest, le sud-ouest de Lubero, où les groupes armés font faisaient leur loi pratiquement. Et donc, cela n'est que normal. Et pour la recherche de la paix, nous devons quand même dire que nous avons effectué des descentes, même à Kichanga. Le gouverneur récemment, il était à Bunagana. Il y a un centre de santé qui est en cours de construction à Bunagana. Il y a une école qui est en chantier à Mushaki. C'est-à-dire, au fur et à mesure que les localités sont accessibles, les chantiers aussi suivent, que ce soit dans le secteur de l'éducation, que ce soit dans le secteur de la santé, et que ce soit dans le secteur de l'habitat, que ce soit dans le secteur des routes,
Monsieur le vice-gouverneur, il ne nous reste plus que 4 minutes. Je vous demanderai de répondre à cette question en une minute. Depuis 2 ans que vous êtes à la tête du gouvernement provincial avec le gouverneur Julien Paluku, combien de routes avez-vous déjà construites ou réhabilitées dans votre province et combien de foyers ont déjà eu accès à l'eau et à l'électricité dans votre province? En une minute, s'il vous plaît.
Bon, en une minute, nous allons vous dire que depuis 2002, dès que la route principale de Goma avait été engloutie par la lave, eh bien, cela est visible au niveau de la route. C'est une route qui est en train d'être réhabilitée avec les moyens propres de la province. Au niveau des écoles, nous avons relaté certaines écoles. Et nous avons déjà construit et achevé pratiquement 6 écoles et il y a 8 écoles qui sont en cours de construction et nous avons entamé la construction d'une université, l'université officielle de Rwenzori. Et nous avons construit l'hôpital de Lubiria et avec aussi 4 centres de santé qui sont
Merci beaucoup, monsieur le vice-gouverneur. On n'a plus que 2 minutes et demie. Je lis la réaction de Raymond de Massy sur Nord-Kivouin, qui estime que depuis l'élection des autorités provinciales du Nord-Kivouin, il n'y a aucun impact sur tous les plans. Il cite le cas de la route Sakemassissi, qui d'après lui, qu'il qualifie de calvaire. Réaction avec vous, député provincial Mouindo Nzangi. En oui. Une minute.
Ah, mais vous ne faites pas assez de temps.
Allez-y. Allez-y.
La catastrophe. Si vous trouvez tous les projets qui étaient prévus dans les programmes du gouvernement, il n'y a que l'asphaltage de la route de Toratila, finière, ce qui a été fait, c'est tel que le gouvernement le dit. Mais si vous y arrivez, vous allez trouver que c'est une route qui n'a jamais existé, unique au monde, où effectivement il y a des collines. Dans le goudron, il y a des troncs chaunés, il y a des vagues sur le lac. C'est un goudron unique de ce genre que nous n'avons jamais vu. Si vous trouvez déjà dans la ville de Goma, c'est difficile aujourd'hui de quitter le cadre de ville, passer par l'université de Goma et arriver au bureau du gouverneur. La route est devenue impraticable. Si déjà au niveau du cadre de ville, il y a déjà une impraticabilité des routes, dans le terrain de la province, là, on ne peut même pas faire de commentaires.
Et qu'est-ce que vous suggérez pour améliorer la situation socio-économique dans les 2 ans ou 3 ans qui restent, en 30 secondes?
Je crois que le gouvernement doit fournir des efforts. D'abord, pour maximiser les recettes. Toute cette fraude est entretenue à Kassim, à Boutembo, partout, où il y a beaucoup de flics, mais il n'y a pas de recettes qui viennent de là. Il faut arrêter. Canaliser toutes les recettes vers les trésors de la province. Et c'est à ce niveau que le gouvernement peut avoir des moyens de pouvoir faire sa politique, de construire les routes, les belles routes.
Merci beaucoup.
Comme celle qu'on est en train de construire.
Merci beaucoup.
Nous voudrions demander vraiment au gouverneur de s'engager totalement à pouvoir faire des actions visibles, non pas des actions ponctuelles.
Merci beaucoup.
On est
obligé de terminer. S'il vous plaît, monsieur le député provincial, donc c'est la fin de cette émission. La réalisation était assurée ce soir par Guy Maté, la mise en onde par Alain Gross, avec le concours rédactionnel de Pierrot et Lamégi et Alain Hiron, sous la coordination de Martin Sojou-Jangoué. Je vous dis bonsoir chez vous et n'hésitez pas à rester branchés sous la radio de la paix, Radio Capi pour d'autres programmes.
Okapi, okapi.